Deutsche Welle, Allemagne, Europe.
Auschwitz! Majdanek!
Meine Tränen kann nur ich weinen.
Bergen-Belsen!
Unseren Trauergesang können nur wir sagen.
Sobibor!
Créé le 27 avril 1940 par le meurtrier du siècle Heinrich Himmler, le camp d'Auschwitz-Birkenau, cité au début de cette prière juive, est le plus grand et le plus terrible camp de concentration et d'extermination du Troisième Reich. Un symbole de barbarie inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pendant 5 ans, le monde ou presque défile à Auschwitz et y perd la vie. La grande majorité des victimes sont des juifs. Viennent ensuite des tziganes, des prisonniers de guerre, des opposants politiques, des résistants. Seuls ceux qui ont connu Auschwitz savent ce que c'était, écrit Elie Wiesel, rescapé de ce camp. Les autres ne le sauront jamais, au moins comprendront-ils. Ce 27 janvier marque les 70 ans de la libération d'Auschwitz, l'occasion d'essayer une nouvelle fois de comprendre et en tout cas de se souvenir. En deuxième partie, on retrouvera Anne-Julie Martin pour un reportage sur la fin d'un mythe. Le train de nuit qui relie Berlin à Paris n'est plus. Au micro, c'est Constanze Ungötze. Guten Tag, bonjour à tous.
Wir an der ganzen Ostfront zwischen Ostsee und Karpaten setzen hier in den Morgenstunden des 13. Januar die Sowjets zu ihrer bisher größten Offensive an.
13 janvier 1945, extrait du Deutsche Wochenschau, les actualités allemandes diffusées dans les cinémas de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Cet extrait-ci fait état de l'avancée des troupes de l'armée rouge sur le front de l'Est. 2 semaines plus tard, le 27 janvier, un samedi, les soldats soviétiques arrivent aux portes du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, situé dans ce qui est aujourd'hui la Pologne, à l'époque territoire annexé par les nazis. Les soviétiques qui trouvent environ 8000 prisonniers à bout de force. Parmi eux, l'italien Primo Levi, qui fit de son expérience concentrationnaire le principal thème de son œuvre littéraire. Et voici comment il décrit la situation qui régnait à l'arrivée des libérateurs dans son livre « Si c'est un homme ».
Nous nous trouvions dans un monde de morts et de larves. Autour de nous et en nous, toute trace de civilisation, si minime soit-elle, avait disparu. L'œuvre de transformation des humains en simples animaux, initiée par les Allemands triomphants, avait été accomplie par les Allemands vaincus.
Des montagnes de vêtements, des dizaines de milliers de paires de chaussures, des tonnes et des tonnes de cheveux humains empaquetés dans des sacs en papier. Malgré les précautions prises et l'ordre de ne laisser aucune trace des crimes commis, les nazis ne réussissent ni à liquider tout le monde, ni à effacer toutes les preuves. Et quelques mois après la libération du camp, les premiers prisonniers acceptent de témoigner.
Es stand ein Arzt und ein Kommandant bei Ankunft der Transporte an der Rampe.
À l'arrivée des transports, un médecin et un commandant. Ils procédaient à la sélection sous nos yeux. Âge, état de santé, ceux qui venaient d'arriver pensaient s'en sortir en invoquant une quelconque maladie. En réalité, ils signaient leur arrêt de mort. Les enfants et les vieillards étaient particulièrement exposés. À droite, la vie, à gauche, le crématoire. Puis ce fut mon tour. Ils m'ont dérobé mon nom. Le 31 mars 1943, j'ai perdu mon nom et je suis devenu Z5752, un numéro. En 5 ans, plus de 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants meurent à Auschwitz. Aux grandes heures du camp, en 1944, jusqu'à 6000 personnes sont assassinées chaque jour dans des chambres à gaz dans lesquelles on introduit du cyclone B. Un gaz toxique utilisé à l'origine comme agent contre les poux et les rats. Les corps sont ensuite brûlés dans des crématoriums. Une entreprise criminelle à grande échelle dont l'écrivain Robert Merle se fait l'écho dans son roman « La mort est mon métier ».
Je compris aussi qu'il fallait mettre les chambres à gaz en relation avec la gare et construire une voie ferrée qui amènerait les transports devant leurs portes, tant pour éviter les pertes de temps que pour cacher le contenu des trains à la population civile d'Auschwitz. Ainsi, peu à peu, l'idée prenait corps dans mon esprit avec une précision grisante d'une gigantesque installation industrielle.
Les internés les plus vaillants, eux, sont condamnés au travail forcé. L'espérance de vie moyenne est alors de 3 mois. et à un quotidien rythmé par les maladies, la malnutrition, les mauvais traitements et les expériences médicales, celles du docteur Joseph Mengele sont restées gravées dans les mémoires des survivants. L'appel et le triage, chaque semaine, des heures et des heures à attendre devant les horribles baraques. Puis le médecin arrivé, l'officier Mengele, d'un geste de la main, il mettait fin à une vie. Il désignait le numéro 1, le numéro 3, le numéro 5. Ils devaient sortir du rang et ensuite ils étaient emmenés au bloc 25. Le bloc 25, c'était le bloc de la mort. En 1947, un premier procès se tient à Cracovie, en Pologne, procès durant lequel Rudolf Höss, l'un des commandants du camp d'Auschwitz, est condamné à la peine de mort. La même année, l'État polonais décide d'inaugurer un musée sur le site de l'ancien camp. 1 500 000 personnes s'y sont rendues rien qu'en 2014. Dîner à Berlin, s'endormir en passant près de Leipzig et se réveiller à Paris, une expérience de voyage inoubliable qui n'est désormais plus possible dans un sens comme dans l'autre. Après 70 ans de service, la Deutsche Bahn, la société de chemin de fer allemand, a supprimé les trains de nuit reliant l'Allemagne et la France le mois dernier. Concurrence des compagnies aériennes low cost, problèmes de coûts et de logistique, autant d'arguments qui ne convainquent pas les défenseurs du voyage sur rail. Anne-Julie Martin était avec eux au moment de ce dernier aller-retour.
12 décembre 2014, gare de l'Est à Paris, il est 9h du matin. En attendant l'arrivée du dernier train en provenance de Berlin, Hambourg et Munich, d'autres voyageurs affluent vers le TGV en partance pour Stuttgart. Comme Jeanne, une franco-allemande qui fait souvent des allers-retours entre les deux pays.
Ah bon, il n'y aura plus les trains de nuit? Ah mais je l'adore ce train de nuit, je suis dégoûtée. Quel dommage, le train c'est tellement agréable.
Voiture 18.
Ah bah, c'est pas nous.
Ah si, c'est là.
Sur le quai 24 arrivent les wagons rouges et blancs aux couleurs de la Deutsche Bahn. Les voyageurs semblent moins pressés que d'ordinaire. Raphaël, professeur de philosophie au lycée, reste à discuter avec ses collègues.
Berlin-Paris, ils arrêtent la ligne et nous, on s'est retrouvés dans le dernier train de nuit avec nos élèves. Ils distribuaient des flyers, des autocollants et du vin et des verres de vin. On est désolé que ça se termine parce que c'est un super beau voyage et qu'on adore prendre le train.
À bord, le contrôleur vérifie qu'il n'y a plus personne et nous offre une petite visite.
Ça, c'est un compartiment de luxe avec la douche, les toilettes.
Et tout d'un coup, c'est un lit. Plötzlich ist das ein Bett.
Et hop, ce n'est plus un lit. Le train est peu fréquenté en novembre, mais en été, il est toujours plein.
Renzo travaille pour cette ligne depuis 1972. Nombre de ses collègues ont aussi fait le voyage comme passagers pour manifester.
Le plus grave, je trouve, c'est la perte d'une part de notre culture. Cette belle façon de voyager, plus lente que l'avion, est très différente. Il y avait un bistrot avant, les gens discutaient, c'était plein jusqu'au milieu de la nuit. On se demandait même pourquoi les gens avaient réservé une couchette. Oui, il y avait des échanges. C'était très particulier, ce train pour Paris. Un vrai brassage de personnes qui partaient ensuite pour l'Amérique latine ou ailleurs encore. Des femmes avec des enfants et une énorme valise. Des hommes d'affaires, bien sûr, et beaucoup d'adolescents. Et nous avons passé, nous aussi, de très bons moments.
Manuel, lui, est chef de train. Il dénonce des coupes sombres, une politique d'entreprise inconséquente.
Il justifie cette décision en affirmant qu'il y a de moins en moins d'usagers et que les péages du réseau ferré français sont trop élevés. Mais en réalité, les rentrées d'argent ont augmenté ces dernières années. Et en plus, il n'existe aucune alternative. Que vont faire, par exemple, ceux qui ont peur de l'avion et les personnes à mobilité réduite?
D'autant que les liaisons avec la France ne sont pas les seules concernées. Le train nocturne vers Copenhague a arrêté de rouler un mois plus tôt, plus de trajets non plus vers Amsterdam.
Pour faire pression sur la Deutsche Bahn et le gouvernement allemand, les syndicats peuvent compter sur les partis écologistes et Die Linke, le parti de la gauche radicale, dont des militants sont venus faire le trajet munis de pancartes et d'arguments pour la protection de la planète.
Ce sont des centaines de milliers de voyageurs qui prennent ce train chaque année. 75% d'entre eux disent que s'il est supprimé, ils se rabattront sur l'avion ou la voiture. Et selon les estimations, cela correspond à des centaines de milliers de tonnes d'émissions de CO2 supplémentaires.
Le 14 janvier dernier, les Verts et Die Linke ont plaidé la cause des trains de nuit lors d'une audition parlementaire devant le Bundestag, la chambre basse du Parlement. Ils réclament un moratoire avec le maintien des trajets pendant 3 ans et la recherche d'un nouveau concept pour les transports nocturnes. 10 heures plus tard, des lettres lumineuses s'allument sur des cartons devant la façade de la gare et se reflètent sur le sol mouillé par la pluie. Le S, le A, le U, le V, chaque personne porte une lettre. Ça y est, tout le monde est réuni et on peut lire « Sauvons le train de nuit ». Association des usagers du train, militants du climat, syndiqués, les Français sont venus en renfort avant le départ du dernier Paris-Berlin cette fois. Basile Pau représente le syndicat Sudrail des cheminots.
Aussi bien la Deutsche Bahn que la SNCF se rejettent la responsabilité de la suppression de ce train. On parle de coopération, d'Europe, mais dès qu'il s'agit de concurrence, et bien chacun se renvoie la balle.
Cette artère majeure qui reliait les capitales allemandes et françaises est loin d'être la seule concernée. C'est tout le réseau européen de nuit qui s'appauvrit en interne ou à l'international. Alors qu'à la fin du 19e siècle apparaissaient les premiers wagons-lits, le temps de l'Orient Express semble loin désormais. Des dizaines d'initiatives citoyennes et de pétitions ont fleuri sur le net en plusieurs langues, avec les mêmes espoirs pour l'environnement et pour une Europe connectée par les rails.
Anne-Julie Martin et la fin du train Paris-Berlin, un reportage à retrouver comme d'habitude dans notre médiathèque sur le dw.de/français. Et puis si vous voulez nous écrire, une seule adresse, français@dw.de. Passez une bonne semaine, revenez la semaine prochaine. Tchuss et à bientôt.